Journal du naturaliste Claus van der Stappen, 18 juin de l'an de grâce 1514.
Je veux que nous allions tous de l'avant, francophones et flamands.
C'est au cœur d'un temple à l'architecture khmer que je viens de recueillir les dernières paroles de mon compagnon de route, Bart de Wivereux. Le zoologiste anversois vient de succomber à ses blessures, paix à son âme. Voilà qu'il n'est plus de ce monde, bien qu'il lui laisse un héritage d'ouverture et de tolérance. L'approche de la mort lui a fait prononcer de touchantes paroles qui lui ressemblaient si peu. Il me faudra transmettre son ultime message à sa progéniture, restée en Flandre, en espérant que celle-ci en comprenne l'importance et n'en déforme pas le sens au fil des générations. Les moines autochtones semble ému par la scène qui vient de se jouer ici. Le crâne rasé, drapé d'une toge d'un orange vif, il prie pour mon défunt compagnon. Les premiers explorateurs portugais sont persuadés depuis leur arrivée ici que ces moines adorent le même dieu que le nôtre, qu'ils vénèrent notre Christ sous la forme de sculpture d'un homme enrobé, assis, les jambes croisées et le visage souriant et apaisé. Mais ces autres bas-reliefs étonnants seraient-ils donc des représentations de saints? Se pourrait-il que cette sculpture d'un homme aux couleurs ocre soit un Simon Roussin? Un saint Simon Roux? Et cela, quel saint représente-t-il? Thomas, Matthieu, Benoît, Guillaume, Rémi, Lucas? Et ce personnage joufflu qui tient un parchemin comme un apôtre? Peut-on y voir les traits d'un Matthieu bonhomme? Je l'ignore. Mais l'heure n'est pas à la question, il est au recueillement. Et les moines entament de nouvelles incantations pour chasser loin de l'âme du défunt les mauvais esprits à l'apparence de diablotins incandescents qui voudraient la tourmenter. Je les accompagne ainsi dans leurs prières. Quittez donc ce lieu et allez enflammer d'autres terrains terrifiants, diables rougeoyants. Dans cette troisième capsule de la rubrique Ma vie en slash, je vous parlerai de l'actualité la plus importante, à mes yeux du moins, de ce dernier mois. Alan Moore est de retour avec un ambitieux projet de développement de bande dessinée numérique, bien qu'il n'ait jamais vraiment entièrement abandonné le 9e art depuis qu'il se proclama magicien, poursuivant par exemple l'écriture de plusieurs récits dans l'univers de la Ligue des Gentlemen extraordinaire chez Top Shelf, le scénariste britannique s'est néanmoins fait relativement discret, encensé pour son V pour Vendetta, ses Watchmen et son From Hell, coupé dans son élan alors qu'il revenait à une écriture inspirée moins pompeuse sur les titres de son label American Best Comics, voilà qu'il se lance à 60 ans dans l'expérimentation sur support numérique. L'idée lui vint il y a 3 ans alors qu'il travaillait sur un projet de film et de série télévisée avec Mitch Jenkins, imaginant pour une scène des enfants lisant des comics sur des rouleaux flexibles et transparents nommés Spindles, il décida de baptiser ses bandes dessinées numériques du nom d'Electric Comics. Un an plus tard, le concept refit surface et avec l'aide d'une petite équipe d'enthousiastes, il devint un projet soumis au Digital Research and Development Fund for the Arts. L'ambition est à la fois simple et audacieuse. Produire de nouveaux comics pour l'ère digitale et parvenir à développer de nouvelles techniques narratives, à créer et utiliser de nouveaux outils pour le médium, outils qui devront être mis gratuitement et librement à la disposition de tous. Associé à 2 chercheurs universitaires et à un développeur d'applications informatiques, l'équipe d'Electric Comics étudia dans un premier temps les divers outils déjà existants en bande dessinée numérique. La seconde étape consista à imaginer de nouvelles techniques avec un groupe d'auteurs invités lors de réunions de réflexion où il leur fut proposé de produire 4 récits qui seront mis en ligne avec l'application dans un an. Le webcomic de 32 pages reprendra ainsi le récit Big Nemo, signé par Alan Moore et Colin Doran, qui revisitera le célèbre personnage de Winsor McCay dans les années 30. Le récit d'horreur Cabaret Amygdala, signé par Peter Hogan et Paul Davidson. Le récit Red Horse, signé Garth Ennis et Peter Snedgeberg, est consacré à la Première Guerre mondiale. Et enfin, le récit de science-fiction Sway, signé par Nicolas Scott et Lea Moore, fille d'Alan et responsable éditorial de l'ensemble du webcomic. À cet alléchant programme, où l'inventivité d'un McKay serait repensée numériquement par Alan Moore, il faut également ajouter les noms de José Villaboura, excellent coloriste de la série Promethea, de Simon Bowland au lettrage et du prodigieux Todd Klein pour la conception des logos. Mené en toute indépendance par Alan Moore et Mitch Jenkins sous leur label Orphans of the Storm, grâce au financement d'un organisme anglais soutenant les collaborations entre projets artistiques, développeurs informatiques et chercheurs, le projet Electric Comics semble des plus prometteurs, d'autant qu'il fournira au final une boîte à outils entièrement libre d'utilisation. Je signalerai aussi, puisqu'il est question d'Alan Moore et d'Internet, que des photocopies de planches du Big Numbers numéro 3 ont fait miraculeusement surface sur la toile. œuvre ambitieuse et malheureusement inachevée d'Alan Moore et Bill Sienkiewicz sur l'impact de la construction d'un grand centre commercial dans la ville de Northampton, Big Numbers n'avait vu paraître que 2 des 12 fascicules dont il devait être composé. Al Columbia, l'assistant de Sienkiewicz, dessina cependant le 3e numéro avant d'abandonner à son tour. Une amie d'Alan Moore fit circuler autour d'elle quelques photocopies de ses planches qui viennent d'être rendues publiques près de 25 ans après leur création. Une autre célèbre planche d'Alan Moore a également été dévoilée récemment dans sa version non censurée via un tweet. Il s'agit de la scène du Batman de Killing Joke dans laquelle le Joker présente au commissaire Gordon les polaroïdes des sévices qu'il fit subir à sa fille Barbara. On découvre ainsi que la scène comportait à l'origine une connotation plus sexuelle et que l'éditeur DC Comics avait préféré cacher ses seins que l'Amérique ne saurait voir. Mais en voilà assez de parler d'Alan Moore au passé et au futur et évoquons plutôt ce qui se fait sur la toile au présent. Sur la période du mois de mai, Victor Husnou nous a gratifié d'un passionnant récit transmédia expérimental qui débuta sur le site de publication en ligne Grand Papier. Le jeune auteur français, dont des travaux comme les gris colorés ou les narrations dans l'espace furent déjà évoqués dans l'émission, débute donc son récit level par un premier niveau de 120 pages, tout en pixels et évoquant l'esthétique des premiers jeux de console. S'affrontant sur Street Fighter, ses personnages seront bientôt menés à défier des êtres évoluant dans un monde visiblement parallèle de l'autre côté de la machine. À la fin de ses planche publiée sur grand papier, le lecteur est invité à passer à un second niveau dont le support sera celui de blogueur, puis à un troisième niveau qui sera décliné sur Tumblr. Je ne dévoilerai pas ici le niveau final, qui est également un support différent des précédents et qui conclut, ou plutôt poursuit, cette expérience narrative qui a su tirer parti, avec humour et intelligence, des spécificités techniques des différents supports numériques ainsi visités. Signalons également la participation récente et remarquée de Victor Husnou au collectif Polychromie, édité par les éditeurs Polystyrène au mois de janvier. Je terminerai en vous conseillant également de découvrir le webcomic baptisé Le Portail de Thomas Mathieu et Martin Wautier, publié dans le 15e numéro de la revue numérique Professeur Cyclope. Ce récit anxiogène en turbomédia a la particularité de bénéficier d'une composante sonore qui en rend l'atmosphère encore plus oppressante. La musique de Martin Wautier et quelques effets sonores accompagnent à merveille ce huis clos mettant en scène un couple dont la demeure sera visitée de nuit et à plusieurs reprises par des vandales. Thomas Mathieu, auteur des Dragues Misères, de Bimbo versus Chaton Tueur ou encore du webcomic Projet Crocodile, fait progressivement monter la tension et la relâche soudain pour nous mener à un final abrupt. Le Portail est un exemple très réussi de l'immense potentiel de la bande dessinée numérique à découvrir donc. Vous retrouverez des images et des liens de tous les sujets mentionnés dans cette capsule sur le 3e poste de la rubrique Ma vie en slash sur le site internet de Radio Grand Papier. Sawadee Kap, les amis.